Merci d'écouter RFI, les 9h à Paris, 8h temps universel. Le journal Martin Guez. Bonjour Martin.
Bonjour Chantal Leroux et à tout de suite pour appel sur l'actualité. Mais tout de suite, place au journal donc ce lundi 17 février qui marque le début du procès de Medine Mouche et de 4 autres djihadistes accusés d'avoir détenu 4 journalistes français entre 2013 et 2014 au sein du groupe État islamique en Syrie. Procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. RDC, le M23, appuyé par le Rwanda, s'est emparé de la ville de Bukavu, deuxième plus grande ville de l'est du pays après Goma. Situation encore très volatile concernant les déplacés de la région. Après le sommet de Munich, celui de Paris, beaucoup plus informel, les chefs d'État européens qui tentent d'adopter une position claire et marquée sur l'Ukraine. Et puis enfin en Floride, une véritable marée rouge de minuscules algues en grande quantité, dangereuses pour les baigneurs et dangereuses pour la vie marine. Ouverture ce lundi à Paris d'un procès très attendu. Devant une cour d'assises spéciale, celui de 5 djihadistes accusés d'avoir détenu des journalistes français en Syrie en 2013 au sein du groupe État islamique. Des otages nommés Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres qui ont passé près d'un an en captivité en Syrie après des mois de supplice et de violence. Parmi leurs geôliers, Medine Mouche, le tueur du musée juif de Bruxelles, déjà condamné à la perpétuité pour cet attentat. Explication, Laura Martel.
C'est un procès pour terrorisme singulier car il ne concerne pas un attentat. D'anciens otages occidentaux vont faire face à leurs geôliers présumés. Parmi les ex-otages, des journalistes, dont 4 Français, Didier François et Édouard Elias, enlevés dans la région d'Alep le 6 juin 2013, 15 jours avant Nicolas Hénin et Pierre Torres, kidnappés à Raqqa. Ils seront libérés après près d'un an d'une séquestration marquée par les tortures physiques et psychologiques. Un sort partagé par de nombreux humanitaires, dont l'Italien Federico Mocta et le Britannique David Hines. Le premier sera libéré, le second exécuté. Tous étaient aux mains de l'État islamique en Irak et au Levant, né en avril 2013, qui deviendra un an plus tard le groupe État islamique. Le 24 mai 2014, un mois après le retour en France des journalistes, Medine Mouche abat 4 personnes au musée juif de Bruxelles. Arrêté à Marseille quelques jours plus tard, son visage étalé dans la presse et reconnu par certains ex-otages. Pour eux, il est Abou Omar, un de leurs geôliers de Syrie, un bavard particulièrement sadique. L'homme s'est depuis muré dans le silence lors de son procès en Belgique comme face aux enquêteurs français. Parmi ses 4 co-accusés, 2 hauts responsables de l'EI, absents et présumés morts, comparaîtront en revanche un franco-algérien, autre geôlier présumé, et un syrien accusé d'avoir facilité un enlèvement.
Laura Martel, spécialiste justice de la rédaction de RFI, le procès qui doit durer jusqu'au 21 mars prochain. Au Proche-Orient, réunion ce lundi du cabinet de sécurité israélien pour discuter de la seconde phase de l'accord de trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Israël doit aussi envoyer des négociateurs au Caire dans cette optique et à Doha pour conclure le premier acte qui prend fin le 1er mars prochain. Hier, Marco Rubio et Benjamin Netanyahu ont parlé d'une même voix. Le secrétaire d'État américain qui a souligné que le Hamas devait être éliminé quand Netanyahu a lui menacé d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza si tous les otages ne sont pas libérés. Marco Rubio qui a quitté Israël tout à l'heure pour l'Arabie Saoudite. Et puis le Hezbollah qui appelle les nouvelles autorités libanaises à faire respecter l'accord de cessez-le-feu qui prévoit un retrait des troupes israéliennes du territoire libanais demain mardi 18 février. Une date déjà repoussée à la demande d'Israël, demande formulée par le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, dans un discours télévisé, alors que l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes ce dimanche contre des sites du mouvement islamiste. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, à présent, où le M23 et les forces rwandaises ont pris le contrôle de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. Après la prise de Goma, les réactions sont vives. Cette fois-ci, le Royaume-Uni qui dit craindre une escalade sérieuse et un conflit régional plus large. L'Union africaine a demandé un retrait immédiat du M23 sans pour autant explicitement mentionner le Rwanda. Nous ne voulons pas d'une balkanisation de la RDC, a plaidé le commissaire paix et sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, lors de la clôture du sommet des chefs d'État de l'instance hier à Addis Abeba. Dans la région de Bukavu, il est pour l'instant impossible d'évaluer les besoins précis des déplacés. Situation encore trop volatile, estime François Morayon, chef de délégation du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge.
Un certain nombre se sont déplacés vers la région d'Ouvira, vers Fizi, voire vont traverser la frontière. Certains vont certainement décider de revenir, mais on fait face à une situation qui est trop volatile et mobile, avec aussi une présence importante d'hommes en armes dans toutes ces régions. Donc il va falloir un peu que la situation se stabilise pour que nous soyons en mesure de de mener des évaluations. À titre d'exemple, pour la région de Goma, nous allons mener à partir de lundi nos premières évaluations du sort des populations déplacées dans différentes zones aux environs de Goma. Donc, comme vous pouvez le constater, ça prend un certain temps jusqu'à ce que la situation se stabilise et puis surtout, on se concentre sur toutes les activités qui peuvent sauver les vies. À ce titre, j'aimerais souligner que à Bukavu, nous avons pris la charge de 15 enfants non accompagnés que nous allons garder et protéger jusqu'à ce que nous soyons en mesure de retrouver leur famille pour les réunifier avec ceux-ci ou celles-ci.
Des propos recueillis par Amélie Tulé, le conflit dans l'Est de la RDC. On y revient tout à l'heure dans la dernière édition d'Afrique Matin. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. RFI 9h05 à Paris, la contre-attaque européenne ce lundi dans le dossier ukrainien. Les dirigeants du vieux continent mis sur la touche depuis le coup de fil entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui se réunissent aujourd'hui dans la capitale française. Et le Premier ministre britannique Keir Starmer se dit prêt à envoyer des soldats en Ukraine si nécessaire pour garantir la sécurité ukrainienne. Déclaration faite à nos confrères du Daily Telegraph alors que s'est achevée hier la conférence sur la sécurité de Munich avec des tensions très fortes entre l'Europe et les États-Unis qui marque une vraie fracture entre deux alliés historiques, estime Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des questions de sécurité. Pour lui, l'Europe doit prendre des décisions très fortes.
C'est-à-dire que quand la porte est close par les États-Unis, ce qui est le cas, il faut forcer la porte, c'est-à-dire dire, bah, écoutez, il n'y a pas d'accord sur l'Ukraine uniquement décidé par Poutine et Trump. Il faut non seulement que l'Ukraine, évidemment, soit partie, mais aussi les Européens. Donc nous refuserons, nous, Européens, tout accord qui serait négocié de manière séparée par les États-Unis et la Russie. Je pense que ça doit être le message. Mais bien sûr, ce message, il doit s'accompagner d'actions concrètes, c'est-à-dire qu'il faut absolument aujourd'hui que les Européens passent en économie de guerre, en termes de production, bien sûr, de d'avions, de busiers, etc. Et il faut vraiment que on passe à un niveau de défense pour nous protéger et pour aider l'Ukraine jusqu'au bout, qui est totalement inconnu jusqu'à présent. Les 3 ou 4% du PIB, je veux dire, il faut absolument définir une trajectoire en ce sens, parce que sinon, ce sera une réunion pour rien. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Européens, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk, d'autres aussi, en sont totalement convaincus.
Des propos recueillis par Romain Lemaresquier, la fin de la conférence de Munich, on y revenait ce matin aussi, avec Sylvie Goulard, ancienne ministre française des Armées. Elle était l'invitée d'Edouard Dupénoit. Entretien retrouvé sur notre site internet www.rfi.fr. La Corée du Sud retire DeepSeek de ses boutiques d'applications comme l'Italie, la France et l'Australie. Le pays avait exprimé ses inquiétudes sur la protection de la vie privée des utilisateurs mais aussi sur la sécurité nationale. D'où émis depuis le lancement tonitruant le mois dernier du chatbot de DeepSeek devenu viral et devenu un véritable concurrent de ChatGPT. La Chine ce matin a défendu sa start-up et a appelé la Corée du Sud à ne pas politiser la technologie. Enfin on termine aux États-Unis, sur la côte sud-ouest de la Floride, qui fait face à une drôle de marée rouge des algues microscopiques qui colorent l'eau et qui produisent une toxine dangereuse. Elle prolifère dans le golfe du Mexique, un phénomène fréquent à cette période de l'année, mais qui a tendance à s'intensifier en raison de la pollution, Lucille Gimbert.
Plusieurs comtés de Floride ont émis des alertes sanitaires, car ces nappes brunes ou rouges dans l'océan, signe de la prolifération de l'algue Karenia brevis, peuvent causer des irritations de la peau et des problèmes respiratoires aux baigneurs et aux promeneurs sur les plages. Inhaler la toxine que produit cette algue rouge est dangereux, en particulier pour les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques. C'est aussi très mauvais pour la vie marine. Ces algues prolifèrent quasiment chaque année dans le golfe du Mexique, mais l'intensité de ces marées rouges augmente depuis quelques années et elles s'étendent parfois après le mois de janvier. En 2021, le phénomène avait causé la mort de très nombreux poissons, dauphins et lamantins. Les ONG environnementales reconnaissent que le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a fait des efforts pour financer la recherche sur la gestion de ces marées rouges, mais elles déplorent qu'il ne s'attaque pas aux causes. Selon elles, le ruissellement d'eau agricole contaminée, notamment aux produits chimiques, aggrave ces marées rouges. On sait aussi que le réchauffement des océans causé par notre utilisation du pétrole, du charbon et du gaz, intensifie la prolifération des algues.
Lucille Gimbert du service environnement de RFI. Un petit mot de football avant de se quitter. 5 matchs, 5 victoires à l'extérieur ce dimanche lors de la 22e journée de Ligue 1. Carton de l'OL, 4 buts à 1 à Montpellier, tandis que Lille l'emporte 2-0 à Rennes dans le choc du soir. Les nordistes qui sont 5e, tandis que Nice monte sur le podium après son succès 3 buts à 1 sur la pelouse du Havre. En Italie, choc au sommet entre la Juventus Turin et l'Inter Milan, remporté 1-0 par la vieille dame sur un but de Francesco Conceição. Et puis un choc entre équipes malades en Angleterre, Tottenham qui l'emporte 1-0 sur Manchester United sur un but de Madison. Les Red Devils qui ne font plus peur à personne et qui pointent à une très triste 15e place en Première Ligue. Voilà, c'est la fin de ce journal. Moi, je vous laisse avec Chantal Leroux pour rappel sur l'actualité.
Merci, c'était le journal de Martin Guez.